Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Grand Paradiso, un livre de Françoise Bourdin.
Alors Françoise, je voulais vous demander... Comment est votre maison ?
Ah, ma maison ? C'est une maison d'auteur. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Parce que je l'ai achetée à un auteur, à un historien, André Castelot, qui avait fait dans cette maison un petit bureau. Madame Castelot avait beaucoup d'exigences, c'était leur maison de campagne. Mais André aimait écrire là, ils y passaient beaucoup de temps. Et donc elle lui avait fait un petit bureau. Mais alors tout petit, hein, c'est vraiment la plus petite pièce de la maison. Et il est à moitié enterré, ce qui fait que sa fenêtre est en rez-de-jardin. Et quand j'ai emménagé là, il y a 16 ans, non seulement le bureau est tout petit, mais il y avait un énorme plan de lutèce. J'ai dit à mes filles, moi je ne peux pas travailler là, j'ai l'impression d'être dans un tombeau, je vais travailler dans la bibliothèque, je vais installer mon bureau dans la bibliothèque qui est juste à côté. Et puis en fait, ma fille aînée m'a dit, essaye. J'ai essayé et ça fait 16 ans que c'est le bonheur. C'est une longère. Et elle a un emplacement extraordinaire parce que de ses fenêtres, je vois au-delà de mon terrain une colline où l'agriculteur fait 2 ans de blé, 1 an de colza. Et au-delà de la colline, c'est la forêt. Donc on voit fréquemment des chevreuils, des biches, des cerfs. Et c'est un endroit magique. Voilà. Quand j'étais petite, quand j'étais enfant, mes parents qui avaient une très belle carrière, donc tous les deux, avaient un hôtel particulier à Neuilly. Et pendant des années, jusqu'à mes... 8 ans, cet hôtel particulier à Neuilly a été une espèce de maison de rêve, une maison magique. Et je rêvais, j'ai toujours rêvé toute ma vie, d'avoir moi aussi un jour une maison magique où je pourrais réunir ma famille, qui serait la maison fédératrice, qui serait la maison où j'aurais des animaux, des chiens, des chevaux. J'étais parisienne, je n'ai quitté Paris qu'à 35 ans. Et c'était un rêve. Et le jour où j'ai pu m'offrir... assez tardivement finalement, puisqu'il n'y a que 16 ans que j'ai cette maison, où j'ai pu m'offrir cette maison, j'ai eu l'impression d'accéder à un rêve et de m'être vraiment offert ce rêve moi-même avec mes droits d'auteur. Et c'était une source de satisfaction à la fois parce que la maison elle est formidable et je l'adore, et puis elle est vraiment à moi, je me la suis vraiment appropriée. La seule chose que je fais aujourd'hui avant de me lancer dans l'écriture d'un roman, ça peut paraître stupide, je dessine le plan de la maison où les héros vont évoluer. Je ne sais pas dessiner en plus, alors c'est des croquis grotesques, mais je veux savoir où ils sont et l'endroit où ils vivent, où ils vont vivre, et moi avec eux pendant un certain nombre de mois, est extrêmement important. Je pense que l'endroit où on vit détermine beaucoup de choses. La première saga, les vendanges de juillet, l'endroit Fontaine était tellement important dans ma tête, j'étais tellement dans cette maison imaginaire, sur cette propriété viticole, que j'ai compris que pour arriver à bien faire vivre des personnages, il fallait vraiment que je visualise l'endroit, et à chaque fois l'endroit, c'était une maison. Je crois pas sur l'ensemble des romans que j'ai écrits, alors effectivement, je sais pas, 44, 45, je les compte plus, qu'il y ait beaucoup de gens qui aient vécu dans un appartement. Donc voilà, voilà l'importance pour moi des maisons, à la fois dans ce que j'écris et dans ce que je vis.
Et est-ce que vous écrivez aussi comme une maîtresse de maison ?
Tout à fait. Je vous invite dans ma maison livre et je ne vous y choque pas. Moi, quand mes héros passent à l'acte et ont envie de faire un câlin, la plupart du temps, je m'arrête au seuil de la chambre parce que je ne vois pas pourquoi j'irais décrire inlassablement les détails de leur câlin. Et ce n'est pas par... par pudeur ou par pudibonderie, mais parce que je pense que bon, le lecteur, il sait ce que c'est qu'un câlin, il n'y a pas forcément besoin de les accompagner là.
Voilà. C'est pas là que sont les vrais tabous, de toute façon.
Non, exactement, exactement. Je préfère les discussions de mes personnages. J'aime bien les discussions, même avec. J'ai toujours dans un roman un personnage qui va pouvoir envoyer la balle, c'est-à-dire qui n'est pas un gentil, qui n'est pas forcément un gentil, même si on peut racheter même les méchants, et puis tout le monde n'est pas tout blanc, tout noir, mais qui va me servir pour l'échange après. Et là, dans le dernier, dans Grand Paradiso, c'était bien pour moi que ce personnage du beau-père de Xavier ne soit pas un vrai gentil, parce qu'il pouvait se permettre de dire des choses qui allaient faire rebondir mon héros. Et en effet, s'attacher à la cause animale, aux espèces en voie de disparition, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire « Ouais, les dinosaures ont disparu, et alors ? Tout le monde s'en fout. » C'était bien que quelqu'un puisse dire ça pour qu'il y ait une réponse en face. Donc j'aime bien les faire polémiquer entre eux, oui.
Enfin, tout le monde s'en fout pas, parce qu'ils vendent un nombre de trucs invraisemblables sur les dinosaures. Donc,
Oui, ça c'est vrai, oui, le commerce ne s'en fout pas.
Est-ce qu'en fait, vous ne racontez pas toujours la même histoire ?
Non.
Non.
Oui, oui,
non, allez-y. Je ne permettrai pas de dire que vous rabaisse. Ouais, est-ce que vous écrivez pas toujours le même truc ? Non, non. Est-ce qu'en fait, il n'y a pas au fond de vos livres toujours ce désir de rassemblement,
oui,
de maison ?
Bien sûr, parce que comme tous les enfants, je pense, de gens qui ont divorcé, qui se sont séparés, j'ai un besoin de rassembler, une envie que les choses aillent bien et que sans faire la famille idéale, sans faire la famille ricorée, les gens ne se séparent pas trop. Et oui, la maison, ça rassemble. C'est toujours dans une famille, celui qui a le plus d'espace, le grand appartement ou la grande maison, qui va organiser les anniversaires, les Noëls, les fêtes. C'est toujours là qu'on va se retrouver, même dans les moments de deuil. Même. Et ça, la maison où tout le monde se retrouve, où toute la famille vient, oui, c'est vrai, c'est resté quelque chose pour moi de capital.
Et quelle est la maison idéale ?
Alors, c'est terrible à dire, mais peut-être qu'aujourd'hui, la maison idéale, c'est la mienne. Vraiment, je peux dire, et je le dis très honnêtement, j'écris pour me faire plaisir. En revanche, quand je lis, et je lis tous les soirs, parce que je serais incapable de ne pas lire pour m'endormir, hein. Je dirais que Guide Michelin en besoin, mais il faut que je lise moi, pour m'endormir. Quand je lis, et quand je suis passionnée, j'aime beaucoup les thrillers, quand j'arrive pas à éteindre la lumière, à un moment ou à un autre, je vais me dire, et en ce moment, en France, des gens qui sont comme toi, qui n'éteignent pas la lumière et qui veulent tourner les pages de ton livre. Et ça, c'est une pensée extraordinaire. C'est flatteur, c'est galvanisant, c'est de se dire, les gens, je les ai embarqués dans mon histoire, ils veulent savoir, ils sont contents, ils ont des émotions, ils aiment cette lecture, et bah oui, c'est génial.
C'est pas un peu effrayant pour vos enfants, ce succès que vous avez ?
Je pense que sur leurs épaules, le poids est beaucoup moins lourd à porter que n'a pu être celui que je portais moi, enfant. Parce que le succès d'un auteur, c'est quelque chose de vague. Maman est romancière, bon. Moi, mes parents, je les ai vus quand j'étais petite, avec des gens debout. Des milliers de gens debout qui font un super triomphe avec 27 rappels et là vous êtes un peu écrasé par la célébrité des parents. Ça peut pas arriver à un auteur. Bon, mes filles me voient jamais dans cette circonstance là. Il y a eu un petit moment dans ma tête de compétition, de me dire mais comment je vais faire pour faire aussi bien qu'eux. Alors j'avais dit un petit peu par provocation, mais moi j'ai fait encore mieux parce que créateur c'est mieux qu'interprète, voilà. Mais encore aujourd'hui, et ma mère est partie il y a 2 ans de ça, et si je vais sur internet et que je regarde certaines vidéos et que je vois, là je pense particulièrement, il y a une vidéo, elle est dans un concert, elle est en civil, elle est dans un concert et elle chante la prière de la Tosca, et là à chaque fois j'ai la mâchoire qui se décroche en me disant quel talent, voilà, et là je suis pas sûre d'en faire autant.
Thank you. Est-ce qu'on aime plus ses parents quand ils ont du succès
ou... Non, je ne crois pas qu'on les aime plus, parce que moi, j'ai une admiration folle pour mes parents, qui ont été des artistes immenses, mais indiscutablement la tendresse et l'affection. Ma mère est partie, j'étais toute petite, et j'ai eu beaucoup plus de tendresse et d'affection pour mon père, parce que je suis restée avec mon père, que pour ma mère, parce qu'elle était devenue un personnage qui n'était plus là, quoi. Et je crois que les enfants, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de tendresse quotidienne. Et c'est les gens qui les élèvent qui vont aimer.
Votre maison n'est pas vide. Dans votre maison, il y a des animaux.
Ah ouais.
Alors, les animaux.
Ah ouais, les animaux. Ah, j'aime pas votre rire dubitatif. Sûr, les animaux. Non, mais c'est génial, les animaux. C'est fabuleux, les animaux. J'en ai eu toute ma vie. J'aurais pas pu m'en passer, je crois. Bon, les chevaux. Les chevaux m'ont apporté des sensations extrêmes. Je parle d'un pur sang, hein. Je parle d'un pur sang à l'entraînement, sur les pistes d'entraînement à Maison Lafitte. Je parle de botte à botte avec des chevaux bien affûtés pour les courses. Bon, n'imaginez pas. Il n'y a pas une moto, il n'y a pas une voiture qui peut vous donner cette sensation-là. Parce que vous avez quand même le martèlement des sabots. Vraiment le vent qui siffle aux oreilles. Et voilà, le bruit du cheval, c'est extraordinaire. On est vraiment le roi du monde sur un cheval de course dans un galop. Voilà. Un cheval, c'est cette sensation de liberté quand on voit un cheval dans un pré qui tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, va partir au galop, va faire demi-tour et partir au galop. Quelque part s'envoler vers la liberté, c'est extraordinaire, ça je ne m'en lasse pas. Mais bien sûr, un cheval, on l'a pas avec soi dans sa chambre. Alors que les chiens à la maison, alors les chiens, moi les chiens, toujours, toujours les chiens. Le chien, c'est un ami, c'est un protecteur, c'est quelqu'un qui vous juge pas. Le chien, il est toujours content. Quoi que vous fassiez, le chien, il est content, le chien, il a confiance. Ça, c'est... voilà, c'est ce qu'on peut pas demander à un humain. Il y a zéro jugement dans le regard d'un chien, il y a que de l'amour.
Ces animaux-là, encore, vous voulez les réunir.
Bien sûr.
Et vous voulez les sauver.
Oui.
Mama Françoise.
Oui, mais oui, parce que on ne peut pas laisser un animal. Ça me fait une peine quand je vois les animaux qu'on abandonne chaque été. Je dis, comment on peut faire des choses pareilles? C'est très cruel, notre rapport aux animaux est très, très cruel et très méprisant. Et c'est vrai que voilà, c'est, cette planète est la leur, comme la nôtre, et qu'on les, on les traite tellement mal. Les élevages de poulets, les élevages de porcs, enfin, tout ça est une abomination. On ne peut pas les faire souffrir toute leur vie et les tuer dans des conditions aussi abominables. On pourrait se dire, ok, on va les tuer pour les manger, parce qu'on est omnivore, parce qu'on a besoin de protéines. Mais on va le faire proprement, on va le faire sans les faire souffrir. On peut tuer un animal en une seconde. On n'est pas obligé de faire de sa vie un calvaire et de le tuer d'une manière abominable.
Vous n'abandonnez personne?
Non, bah non, pas ceux que vous avez aimés.
Même les humains?
J'essaie d'abandonner personne, bien sûr. Ah. Sauf ceux qui vous font du mal. Alors là, sans regret. L'humain, il a des perversions. Les animaux n'ont pas de perversions. Il n'y a pas de perversion sexuelle chez l'animal, ni de pas le prédateur qui va aller violer la pauvre petite guenon qui n'a que 6 semaines. Bon, nous, l'humain est capable de choses abominables. C'est pas la même chose.
Un éditeur, c'est aussi une maison.
Oui, complètement. Et c'est pour ça que j'ai pas changé de maison avec Belfond, parce qu'on a toujours eu une très bonne entente, qui m'ont laissé faire ce que je voulais, qui regarde pas par-dessus mon épaule. Qui m'est arrivé de faire des petites parenthèses chez eux. Il y a par exemple 2 livres, je pense à Comme un frère, qui est un livre beaucoup plus court, beaucoup plus littéraire, et qui se termine très mal puisqu'il se termine dans un bain de sang. J'avais envie d'écrire ça, et ils m'ont dit mais oui, bien sûr, mais il n'y a pas de souci. Et puis j'ai eu envie un jour aussi de faire un bouquin qui se passait à Londres et qui était une histoire de gay, et oui, mon éditeur m'a dit mais bien sûr. Donc voilà, il y a une vraie confiance. Je sais que si j'ai envie de faire tout d'un coup un petit pas de côté, une petite parenthèse, peut-être quelque part de prouver aux gens que, vous savez, ce mépris de la littérature populaire, là je mets les guillemets, est assez insupportable au bout d'un moment. Et de temps en temps, j'ai envie de dire, bon, alors, si je veux, et là je vais paraître vaniteuse, mais si je veux écrire un livre plus littéraire, je sais le faire, je peux le faire. Il se trouve que j'en ai pas envie, ça me rend triste quand j'écris. Moi j'aime bien écrire des histoires qui finissent bien, des histoires que j'aurais envie de lire, des histoires un peu enthousiasmantes. C'est ça que je préfère. mais je sais faire le reste aussi, arrêter de mépriser la littérature populaire. J'écris pas avec une fourche et j'écris pas l'histoire du prince charmant et de la bergère.
Vous me dites ça à moi, je vous ai rien dit.
Non, mais je vous le dis parce que j'ai envie de le dire.
Oui, oui, non, mais je vous ai... Puis de toute façon, vous l'avez dit au début, une maison qui est accueillante est souvent très simple.
Bien sûr, bah, bien sûr. Vous savez, par exemple, il y a un truc... Mes filles, je ne leur ai jamais demandé, mais en province, ça se fait, de se déchausser quand elles rentrent. Moi, ma fille, elle est rentrée avec ses bottes de cheval pendant des années dans la maison. Je me dis, mais une maison, c'est fait pour y vivre. C'est pas fait pour dire, attention, c'est sale, je vais chercher la serpillière. Non, voilà. Ça, c'est pas une maison accueillante, ça.
Ils le font maintenant à Paris aussi, de faire retirer les chaussures. Moi, je m'en vais.
Oh, complètement, oui, complètement. Non, mais écoutez...
C'est une réelle représentation d'une forme mentale, une maison.
Bien sûr, c'est aussi une carapace, c'est un refuge, bien sûr.
Est-ce que ce que vous écrivez, c'est vous ?
Oui, ouais, c'est moi. Je mets juste un tout petit peu d'eau dans mon vin, parce que nous sommes quand même aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ou 15 ans, arrivés dans une époque très bien pensante. Où il ne faut pas que le héros fume trop, il ne faut pas qu'il boive trop. Donc voilà, ça ne les empêche pas, mes héros, de se taper une coupe de champagne ou éventuellement d'en allumer une, mais enfin, faut pas trop insister là-dessus.
Ça fait partie du rôle, justement, encore une fois, de maîtresse de maison, de, justement, de passer au-delà d'un certain nombre de c'est secrets ça. Qu'on n'a pas envie de savoir.
Tout à fait.
Que c'était compliqué en cuisine.
Exactement, oh là là, j'ai eu un problème de voilà. Four, et puis en ce moment, ça ne va pas, ce n'est pas du tout le moral. Voilà. C'était horrible. Oh, la bonne soirée.
Je suis en train de me demander si les draps sont propres dans la chambre d'amis.
Voilà, c'est ça. Non, mais on peut pas, mais vous vous rendez compte. Ben, en disant, je vais aller voir mon compte, je me demande si j'ai pas découvert et tout. Enfin, mais les amis sont pas là pour ça. Ils sont atterrés, ils ont qu'une envie, c'est partir. Eux aussi, ils ont leurs problèmes. Alors si tout le monde les met sur la table, waouh.
Je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça dans vos livres, ce que vous appelez le côté populaire. C'est-à-dire qu'en fait, on se sent bienvenu.
Ah ben, très bien, c'est intéressant ce que vous me dites. Je n'avais pas vu ça comme ça, mais
j'y penserai. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont passé un temps dans votre maison ? Est-ce que vous avez une façon de leur dire au revoir particulière ? Vous dites juste « Salut Polo
». Non, moi je dis toujours... Alors... Bon, j'essaie de trouver des formules un petit peu plus originales qu'à très vite, mais à très vite, c'est quelque chose que je pense, parce qu'on n'a pas envie de voir partir les gens. Et on se dit, bon, c'est quand ils reviennent, quand on les aime bien, bien entendu, sinon, les fâcheux, on est content de les voir partir, mais sinon, quand on se dit à très vite, ça veut dire reviens vite, pour un autre bon moment et dans pas trop longtemps. Parce que je pense qu'en fait, pour avoir des conversations intéressantes entre amis, il faut pas se perdre de vue trop longtemps. Il faut se voir assez régulièrement, ça ne veut pas dire tous les trois jours, mais se voir assez régulièrement pour pas avoir raté trop d'épisodes. Parce que si on a raté trop d'épisodes de la vie de l'autre, bah, y a tellement à raconter que finalement on dit rien. Et là c'est dommage et là on se perd de vue.
Bah là j'avais raté tous les épisodes d'avant. Donc... Forcément. Bon ben à très vite Françoise alors.
Merci.
C'était Grand Paradiso, un livre de Françoise Bourdin.
Merci Françoise.
Ben voilà, ça s'est très bien passé.
Aux éditions Bellefond. Un podcast du Poste Général.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.